VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manelakidza à la présentation de cette édition du mardi 25 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. Le médiateur de la CDAO, Goodluck Jonathan, est arrivé mardi après-midi à Bamako à un nouveau moment critique. Le colonel Assimi Goïta a arrêté et démis le président Bandao et le premier ministre de la transition, Mokhtar Wane, en les accusant de sabotage. La ville de Goma, dans l'angoisse d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo, de longues fissures ont fracturé le sol, secoué par des séismes à répétition. C'est la journée de l'Afrique marquant l'anniversaire de la naissance de l'Organisation de l'Unité Africaine. C'était le 25 mai 1963.
Cette journée offre l'opportunité aux Africains de se rappeler qu'effectivement, il y a 58 ans, un tout petit peu plus que la moitié du nombre des États africains d'aujourd'hui étaient indépendants.
Le sommet Biden-Poutine aura lieu le 16 juin à Genève. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. L'avion du médiateur de la CDAO, Goodluck Jonathan, s'est posé après 15 heures sur le tarmac de l'aéroport international Modibo Keïta, Bamako, Sénou. Il est accompagné du ministre des Affaires étrangères du Ghana et du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CDAO. Le président de la commission de la CDAO devait les rejoindre plus tard. Suivez l'ancien président du Nigeria au micro de notre correspondant Mohamed Danioko.
Nous sommes ici à Bamako en raison des tout derniers développements que le Mali a connus par rapport à la transition. Nous avons estimé qu'il était très important de nous rendre ici en tant que médiateur et équipe de médiation pour écouter les différentes parties. À cette étape précise, nous ne pouvons rien dire de définitif à la presse. Nous allons nous entretenir avec les militaires, la société civile et les autres forces vives de la nation pour savoir de quoi retourne la situation exactement. Et c'est seulement après toutes ces rencontres que nous pouvons bien nous prononcer.
Un nouveau coup de force au Mali, moins d'un an après le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les médiateurs ont défilé toute la nuit à Kati, où la vie a continué son cours normal, comme si de rien n'était. Le point avec la Missa Sangaré sur place à Kati.
Ce matin à Kati, les citoyens ont continué à circuler normalement malgré une nuit particulièrement angoissante. Les commerces ont ouvert, les transports ne désemplissent pas, les grains d'été se tiennent normalement. Des médiateurs locaux composés de religieux et de personnalités civiles ont apporté leurs bons offices toute la nuit durant. Les causeries sont animées de nos jours par une seule information, la démission du président de la transition Bandao et du premier ministre Mokhtar Wane de leurs fonctions par le vice-président Assimi Goïta pour, dit-on, non-respect de la charte de la transition. La nouvelle fut donnée à la télévision nationale à mi-journée par le porte-parole du CNSP, commandant Baba Cissé. Tous les regards sont tournés maintenant vers la mission de la CDAO, dirigée par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. Ce dernier arrive à Bamako aujourd'hui, face à ce qui prend la forme d'un coup d'État. La réaction de la communauté internationale est très attendue les heures qui viennent. Lamissa Sangaré, Kati, VOA Afrique.
Les militaires ont fait arrêter hier le nouveau ministre de la Défense et de leurs collaborateurs, quelques heures à peine après la présentation d'un nouveau gouvernement. Ils les ont fait conduire vers la garnison militaire de Kati, non loin de Bamako. L'ambiguïté de la formulation suscite des interrogations sur l'éventualité que le vice-président aurait démis de leurs fonctions le président et le premier ministre, faute d'avoir obtenu leur démission sous la contrainte. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko, revient sur les dernières 48 heures.
Les nombreuses condamnations de l'arrestation des deux dirigeants ont été suivies par l'annonce de l'arrivée du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, pour tenter de trouver une solution. Mais avant qu'il ne foule le sol malien, un communiqué du vice-président de la transition, Assimi Goïta, lu par son conseiller, le commandant Baba Cissé, sur les antennes de l'ORTM, a mis fin aux fonctions de Bandao et de Mokhtar Wane.
Le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation.
Pour l'observateur de la scène politique et analyste Mahamadou Kane, il ne s'agit ni plus ni moins qu'un coup d'État.
Oui, à l'analyse du communiqué du vice-président de transition Assimi Goïta, c'est clairement un coup d'État militaire hein, qui vient d'être consommé au Mali. Lorsque Assimi Goïta dit dans les communiqués « nous avons décidé d'agir et de mettre hors de leurs prérogatives le président de transition et le premier ministre », je crois que c'est clairement un coup de force, un de plus au Mali.
Très tôt ce matin, un groupe de jeunes s'est retrouvé devant la bourse du travail pour manifester contre l'arrestation du président de la transition et de son premier ministre par les militaires. Bala Mariko, manifestant.
On est là aujourd'hui pour dénoncer le nouveau coup de force des militaires suite à l'annonce de l'équipe gouvernementale hier. Nous dénonçons ce coup de force et nous exigeons la libération de Bandao de Mokarouane.
Cette mobilisation, qui n'avait pas été autorisée, a été très vite interrompue par les forces de l'ordre. Mais pour Adam Diko, qui est l'une des premières personnes à avoir appelé sur les réseaux sociaux à se mobiliser, il est inconcevable que les forces étrangères soient au front pour combattre et les forces armées maliennes à Bamako pour se battre pour des postes de responsabilité.
Nous ne pouvons pas comprendre que les autres forces étrangères soient à Bamako et au Mali pour nous aider, pour aider les Maliens à libérer le Mali, à chercher les djihadistes, pendant que nous, nos militaires, sont à Bamako en train de se battre pour des postes ministériels. Nous dénonçons ce coup de force.
Si le premier vice-président de la transition reproche aux dirigeants leur démarche solitaire et le non-respect de la charte de la transition, pour Mahamadou Kane, le fait que les colonels Sadio Camara et Modibo Kone, anciennement ministre de la Défense et de la Sécurité et homme fort de l'ex-CNSP, le Conseil national pour le salut du peuple, ne figure pas dans la liste du gouvernement Mokhtar Wande, explique ce coup de force. En attendant de savoir qui va remplacer Bandao et Mokhtar Wande, le colonel Assimi Goïta assure que les élections auront lieu, je cite, courant 2022. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
La MINUSMA, l'Union africaine, la France et les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne rejettent tout fait accompli, y compris une éventuelle démission forcée des dirigeants arrêtés. Un coup d'État inacceptable. Les dirigeants européens ont condamné avec la plus grande fermeté l'arrestation du président du Mali et de son premier ministre. La France a demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes prêts, dans les prochaines heures, si la situation n'était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées contre les protagonistes, a affirmé Emmanuel Macron. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi au calme au Mali et à la libération inconditionnelle du président de la transition et de son premier ministre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président nigérien Muhammadu Buhari a appelé mardi la communauté internationale à soutenir le plan de transition des nouvelles autorités du Tchad voisin, un mois après la mort soudaine de son homologue Idriss Déby Itno. Il y a une nécessité sacro-sainte de soutenir le gouvernement tchadien pour mener à bien sa transition pendant les 18 prochains mois, a déclaré M. Buhari lors d'un sommet consacré à la sécurité de la région du lac Tchad qui se tenait à Abuja. La ville de Goma, dans l'est de la RDC, vit dans l'angoisse d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. De longues fissures ont fracturé le sol secoué par des séismes à répétition. Le bilan est monté à 32 morts. Selon les autorités locales, entre 900 et 2500 habitations ont été détruites par les coulées de lave. De fissures larges de quelques dizaines de centimètres par endroit ont fracturé le sol en pleine ville, alimentant la psychose d'une nouvelle éruption du volcan. Le président américain Joe Biden rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine le 16 juin à Genève, en Suisse, a annoncé mardi la Maison-Blanche. Ce premier tête-à-tête entre les deux hommes interviendra dans un climat de vive tension entre Washington et Moscou. Les programmes nucléaires de l'Iran et de la Corée du Nord, l'Arctique, le changement climatique ou encore la Syrie feront partie des discussions. Ce sommet aura lieu dans la foulée des réunions des dirigeants du G7. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait état mardi à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne en Cisjordanie occupée, de l'intention des États-Unis de rouvrir leur consulat à Jérusalem. Cette représentation diplomatique auprès des Palestiniens avait été rétrogradée en 2019 par l'administration de Donald Trump, malgré la réprobation internationale. Les États-Unis veulent aussi éviter que le Hamas bénéficie de la reconstruction de Gaza, a affirmé mardi le secrétaire d'État Anthony Blinken à Jérusalem, au premier jour d'une visite au Proche-Orient dans l'espoir de consolider la trêve. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez John Lindon pour la Minute Éco.
En République démocratique du Congo, le Conseil d'État a donné son feu vert à la Banque centrale du Congo pour la mise en œuvre du processus de liquidation de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. Cette liquidation forcée intervient après plusieurs tentatives de sauvetage et de recherches infructueuses d'un repreneur. La Côte d'Ivoire veut conquérir le juteux marché américain de la noix de cajou en quintuplant d'ici 2025 sa capacité de décortiquage et en se mettant aux normes internationales. Le leader mondial de la noix de cajou ne transforme que 10% de sa récolte. Selon Adama Koulibaly, directeur du Conseil Coton en Acard, le pays a transformé en 2020 seulement 12% des 848 000 tonnes de sa production. Les banques de développement des gouvernements américains et néerlandais annoncent la mise en place d'une facilité de cofinancement aux entreprises et des pays en développement, surtout aux entreprises dirigées par des femmes. Avec une enveloppe de 75 millions de dollars, ce mécanisme sera engagé dans des États fragiles et à faible revenu sous forme de prêts aux entreprises.
Sans transition, nous passons à votre page des sports. Ce soir, Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir à tous. On connaît les affiches des quarts de finale de la Basketball Africa League qui se dispute à Kigali au Rwanda. Pas de match ce mardi. Les rencontres débutent demain mercredi. Les redoutables Égyptiens du Zamalek, 3 matchs, 3 victoires en phase de poule, feront face aux Camerounais de FAP repêchés en tant que meilleur troisième. Puis place au choc entre les Marocains de l'AS Salé et les Angolais de Petro de Luanda, invaincus lors du premier tour. Jeudi, mission compliquée pour les Sénégalais de l'AS Douane, eux aussi repêchés comme meilleur troisième devant l'US Monastir de la Tunisie. Juste après, les Mozambicains de Ferroviaro de Maputo feront face aux hôtes rwandais de Patriotes. Les deux demi-finales se joueront samedi 29 mai et la finale le dimanche 30 mai. Justement, la NBA vient de lancer une entité pour coordonner ses activités en Afrique. Elle annonce la création de la NBA Africa, un organe chargé de gérer ses activités en Afrique, selon un communiqué. C'est aussi la NBA Africa qui s'occupera désormais de la Basketball Africa League, le tournoi dont la première saison se déroule depuis le 16 mai à Kigali au Rwanda, je le disais. D'après ses promoteurs, la NBA Africa est le fruit d'un partenariat stratégique qui implique des investisseurs individuels, parmi lesquels on compte l'homme d'affaires nigérien Babatunde Folayiwo. Selon la NBA, l'objectif est de promouvoir la croissance du basket en Afrique. Dikembe Mutombo, ancienne gloire de la NBA, originaire de la République démocratique du Congo, fait partie du lot des investisseurs de ce projet. Ici, en NBA, les playoffs se poursuivent. Bagassi Koura.
Oui, Milwaukee, plus agressif, a écrasé Miami 132 à 98 pour mener 2-0 dans leur série du premier tour. Les Bucks se sont notamment appuyés sur une adresse insolente à 3 points. 15 paniers à 3 points réussis sur 29 tentés. C'est un record de franchise en prime. Le Grec d'origine nigériane, Gianni Antetokounmpo, n'a eu aucun mal à faire parler sa puissance. 31 points, 13 rebonds, 6 passes, 2 interceptions. Dans l'autre rencontre, Denver a égalisé à une victoire partout contre Portland, en s'imposant avec autorité sur son parquet 128 à 109 dans le sillage de Nikola Jokic. 38 points, 8 rebonds, 5 passes. Cette démonstration collective des Nuggets contraste avec la performance en solo de Damien Lillard de Portland, auteur tout de même de 42 points et 10 passes.
Bagassi Koura, merci.
Merci Yacouba pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
À l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Eric Manrakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Ce 25 mai 2021 est l'anniversaire de l'organisation de l'unité africaine créée en 1963, 58 ans plus tard. Que peut-on retenir de cette date devenue la journée de l'Afrique? Nous avons joint Karine Kaneza-Nantoulia, directrice de Human Rights Watch, chargée de plaidoyer pour l'Afrique.
58 ans plus tard, la journée internationale, celle qu'on appelle Africa Day, nous offre deux choses. La première, c'est une opportunité pour tout Africain de se rappeler qu'en 1963, il y a 58 ans, 32 États africains ont signé un document que l'on appelle aujourd'hui la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, qui va se développer plus tard et va évoluer, sera l'Union africaine, en 2002 exactement. 30 États en 1963, il n'y en avait que 30 qui étaient indépendants et qui ne vivaient plus sous le joug du colonisateur. La deuxième chose, c'est que cette journée nous offre aussi l'opportunité de réfléchir et de revenir sur les progrès réalisés par l'Union africaine, notamment par rapport à la protection des libertés fondamentales et des droits humains.
L'Afrique actuelle, est-ce que c'est celle-là que l'Africain rêvait avoir aujourd'hui?
C'est une Afrique à plusieurs visages, hein, il faut le dire. Prenons par exemple la question de la démocratie et de l'institutionnalisation des droits humains, qui est une question fondamentale. C'est un processus, n'est-ce pas? Il est important de relever que certains leaders africains, aujourd'hui, résistent l'appel du citoyen africain pour une plus grande responsabilisation, une justice pour tous. Il y a des leaders qui, jusqu'à présent, qui résistent les appels, les demandes de pluralité politique en présentant un narratif qui est assez sournois et assez vindicatif, qui disent le développement d'abord et puis les libertés et l'indépendance, le respect des droits humains plus tard, qui est le même discours. Il est important de le souligner que c'est le même discours qui était présenté par le colon lorsque le colon occidental est venu justement coloniser l'Afrique. Donc on retrouve un même discours qui existait dans le temps, qui est maintenant présenté par le leader africain. Donc évidemment, ce n'est pas ce dont rêve le citoyen africain. Mais il est important de relever certaines réalisations importantes, notamment la création d'une commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui fête ses 40 ans cette année. C'est important de le rappeler aussi. Nous avons une cour africaine qui a légiféré, qui a présenté des décisions sur le droit au développement, qui est très important. L'Afrique, quand même, est la seule région qui a une charte qui est dédiée au droit et au bien-être de l'enfant africain. C'est la seule charte régionale qui existe. Nous avons un comité d'experts africains qui ont pris sur eux de défendre la défense des droits de l'enfant, qui ont mis en place une campagne, par exemple, contre le mariage des adolescentes et le mariage des enfants, qui, à présent, a mené à l'institutionnalisation du droit de la jeune fille. Et il est important de le relever aussi, malgré des défis majeurs que nous avons.
Et pour vous, c'est quoi l'Afrique que vous voudriez voir?
Je pense que je fais partie de ceux et de celles qui veulent une Afrique prospère, une Afrique libre qui appartient à tous. Comme on l'a dit avant, en 1963, le leader africain avait une vision assez claire. Et la vision se basait sur une Afrique libre, une Afrique indépendante, une Afrique qui prend son destin en main. Une Afrique dans laquelle, que ce soit la femme pauvre qui vend ses tomates au bord de la route, que ce soit l'enfant qui est dans une région éloignée, dans un village éloigné de tout, ou que ce soit l'entrepreneur inventif, dynamique, qui commence une entreprise de pointe, que cette Afrique serve ces trois personnages de la même façon. Une Afrique donc qui ne sert pas que un petit groupe de leaders, mais qui sert les populations dans leur entièreté et dans leur complexité. Une Afrique dans laquelle un enfant, une fille n'est pas découragée et à qui on ne demande pas d'abandonner ses études parce qu'elle est tombée enceinte.
Karine Kaneza-Nantoulia, directrice de Human Rights Watch, chargée de plaidoyer pour l'Afrique. Dans l'est de la RDC, l'éruption du volcan Nyiragongo de samedi dernier a fait au moins 32 morts. Selon les autorités locales, entre 900 à 2500 habitations ont été détruites par les coulées de lave. De fortes secousses sont ressenties à Goma et au Rwanda. Eddie Isango, adjoint à Goma, le chef adjoint de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, Raphaël Tenot.
Un coulée de lave qui a détruit au moins 900 habitations, si ce n'est plus, s'est arrêté, mais cette destruction, évidemment, pèse très lourd dans les conséquences humanitaires de cette crise. Le CICR est engagé sur le terrain auprès des populations pour déterminer quelles sont les actions qu'il peut continuer de prendre. Nous avons déjà commencé à nous occuper de réunir certaines familles en collaboration avec la Croix-Rouge congolaise et commencer à faire des projets pour réhabiliter une station de pompage qui pourra, on l'espère, redonner de l'eau à une grande partie de la ville qui en est actuellement privée. Et nous continuons d'appuyer les centres de santé avec des médicaments et des soins chirurgicaux, de l'eau et de l'électricité pour les bâtiments. La situation des déplacés reste un problème en suspens. Beaucoup de gens sont toujours en déplacement du côté de Sake, à l'ouest de la ville. D'autres gens sont revenus pour trouver leur maison complètement détruite et ils regardent souvent la coulée de lave avec les yeux hagards et l'air désemparé. Et nous essayons de répondre à leurs besoins qui vont être des besoins en abri, en nourriture, en biens essentiels de ménage, également en eau et en sanitation. Le problème principal reste le problème de l'eau potable et de la situation de ces déplacés. Un problème qui peut devenir un problème majeur dans les prochains jours si la route reste coupée, c'est le problème de l'alimentation en biens et en nourriture de la ville de Goma. Les secousses sismiques continuent de retentir et de faire trembler toute la ville avec une fréquence et une intensité accrue. Et nous vivons, nous, au Comité international de la Croix-Rouge, comme la population, dans la crainte des secousses sismiques et de leurs conséquences. Nous dormons dehors pour ne pas risquer d'être blessés ou tués par des éboulements de maisons ou d'immeubles. Et nous essayons quand même de répondre tant que faire se peut aux besoins de la population.
Beaucoup de gens meurent des inhalations. On a vu que même le gouvernement a relevé les nombres de morts à 31 hier. Aujourd'hui, où en est-on?
Aujourd'hui, le bilan est évidemment provisoire, car dans une catastrophe comme celle-ci, c'est très difficile d'établir un bilan humanitaire précis. La lave a détruit beaucoup d'habitations et potentiellement touché des populations dont nous ignorons encore le sort. Les inhalations ont commencé à faire des victimes. Ce qui est important, c'est la prévention et la prise en charge. Le Comité international de la Croix-Rouge travaille main dans la main avec la Croix-Rouge congolaise pour prévenir les communautés, au sein des communautés, et pour appuyer également les centres de santé qui prennent en charge les malades.
Et qu'en est-il de gens qui ont perdu de maison?
Nous sommes en train, de façon conjointe, d'établir un programme pour les aider avec des abris d'urgence. Le programme n'a pas encore commencé, mais nous allons le commencer. Les familles qui ont perdu les liens avec leurs membres de famille peuvent se diriger vers le CICR ou vers la Croix-Rouge congolaise et appeler également la ligne qui a été établie pour justement les cas de recherche de parents et des recherches d'enfants.
Raphaël Teno, chef adjoint de la délégation du CICR à Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Joe Biden reçoit ce mardi la famille de George Floyd qui a été tué sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis il y a un an, jour pour jour. La police est l'objet de critiques continues aux États-Unis. Et jusque-là, le président américain n'a pas réussi, comme il espérait, à faire voter un texte contre les violences policières. Arzuma Compaoré a joint dans le Maryland Kadiatou Diallo, dont le fils Amadou Diallo, un jeune Guinéen de 23 ans, a été tué par des policiers en 1999 à New York.
Quand Amadou a été abattu, j'ai fait cette traversée de l'Afrique et je suis venu aux États-Unis. Et j'ai décidé de rester et de militer. D'abord, mon combat au début, c'était de rendre à mon fils son histoire. De la manière dont la presse était en train de parler de lui, ça m'a révoltée. Donc, j'ai tout fait pour passer ce message parce que c'était un jeune étudiant qui est venu ici à New York City et qui travaillait fort et qui économisait son argent. Il voulait être indépendant et payer ses études universitaires. Donc, j'ai réussi à le faire. Malheureusement, pendant le procès, on n'a pas eu justice. Mais j'étais encouragée par le mouvement de tout le monde parce que ça a galvanisé tout le monde pour demander un changement. Aujourd'hui, quand il y a un incident, justement, les gens sont équipés par leurs petits appareils et ils documentent et ils montrent tout le monde entier ce qui s'est passé. J'ai dit que Amadou, c'est le catalyste de ce mouvement, mais George Floyd a vraiment ouvert la porte large pour changer le monde. Mais ce gap-là, entre Amadou et George Floyd, qu'est-ce qui s'est passé? Des milliers et des milliers de personnes ont été abattues. Ça fait 22 ans, 23 ans bientôt, et je continue de voir la même chose. À chaque fois qu'il y a une tragédie, qu'il y a une bavure policière, ça ouvre mes plaies. Donc, c'est cette blessure qui ne cicatrise jamais. On est fatigué, on est stressé, et il faut que ça change.
Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du président Joe Biden?
En tant que maire de Amadou Diallo et la fondatrice de la fondation Amadou Diallo, nous attendons à ce que cette loi qui est en train d'être débattue au Congrès, que ça soit une loi forte. Nous demandons à ce qu'on élimine le qualify immunity, je ne sais pas comment le dire en français, parce qu'à chaque fois qu'il y a un policier qui abat un innocent ou une innocente, il y a cette couverture qui les protège. Donc ça, nous demandons à ce que ça soit inclus dans cette loi qu'ils sont en train de faire passer. Nous, les parents et les militants, nous jouons nos rôles tout le temps. Il faut que tous les acteurs dans ce mouvement-là soient unis et que ça prospère. Sinon, nous allons continuer de voir la même chose. Sans pression, rien ne va changer. Et cette pression, ça doit être sur le plan politique et sur le plan économique, justement.
Kadiatou Diallo, joint dans le Maryland.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
On connaît les écureuils du Bénin en football, mais pas vraiment en basketball, parce que contrairement au sport roi, le basketball est une discipline qui cherche toujours ses marques dans ce pays. Quelle est la situation de la balle au panier au Bénin? La réponse avec Élisée Onkpatine à Boycon au Bénin.
10 équipes masculines et 2 clubs féminins pour une saison en 2 temps. Une première phase zonale avant des playoffs pour désigner les champions. Voilà l'essentiel de la toute première saison de Ligue Pro de basketball lancée au Bénin. Abdoul Gani Bakari, président du comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball, nous parle de cet important virage pris par la fédération.
Nous avons démarré ce championnat avec 10 équipes qui réparties en 2 zones.
C'était un grand challenge, un grand défi que la fédération et son bureau ont décidé de relever. Je peux vous dire, après la première phase, que nous sommes satisfaits de la prestation, de l'engagement des équipes et du niveau de jeu que les différentes équipes nous ont livré à travers des matchs aussi bien chez les hommes que chez les dames.
Le basketball au Bénin a connu une réelle existence au lendemain des indépendances. L'histoire de cette discipline est jonchée de faits d'armes légendaires, ce qui a amené le changement à l'aide du professionnalisme proposé par le gouvernement. Ismaël Onifari, président de la Fédération béninoise de basketball.
Les moyens pour organiser les différents championnats, c'est-à-dire le championnat professionnel et le championnat amateur, et également l'ensemble des autres activités de la Fédération béninoise de basketball, ces moyens-là sont à notre disposition. Et c'est en 2 volets. Il y a d'abord la subvention que nous recevons du gouvernement. Le deuxième volet, c'est la TDS, c'est-à-dire la taxe sur le développement du sport.
Le Bénin a été pendant longtemps un pays majeur dans l'organisation des compétitions internationales. D'ailleurs, le dernier tournoi international organisé à Cotonou était la phase zonale des éliminatoires de la Basket Africa League. Aujourd'hui, le pays a des ambassadeurs de choix pour son basketball. Isabelle Yakoubou, ancienne internationale française, ou Mouftaou Yarou, passée par les universités américaines et le haut niveau européen, et la star NBA Yann Miami, champion avec Dallas, organise des camps pour booster la relève. Un projet d'une grande importance qu'il faut saluer, selon le président de la Fédération béninoise de basketball.
Nous sommes en étroite relation avec cette diaspora. Nous travaillons avec eux et nous leur apportons le minimum d'assurance et d'ouverture d'esprit et également de franche collaboration qu'il faut pour qu'ils se rassurent et qu'ils puissent apporter de leurs compétences, leur image et également les moyens qu'il faut également pour pouvoir accompagner le basketball national.
Le travail va se poursuivre en vue de résultats probants dans les années à venir. Pour le moment, c'est autrement que le basketball béninois brille à l'international avec surtout son arbitrage reconnu et respecté. La dernière preuve est la présence du jeune arbitre béninois Sylvain Jacques Mbeji à la première édition de la Basket Africa League à Kigali au Rwanda. Boycon, Élisée Hunkpati, VOA Afrique.
c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Mandela-Kidza a été à la présentation. Merci dans le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.